tout mou, c'est mou. C'est mes maîtres là qui créent. Mais pour qui ça nous pas cap gain liberté?
Femme qui parle de l'esclavage des Noirs en Haïti, c'est Toto Bissinthe. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et il nous reste encore quelques instants à passer en compagnie de Francisca Cal et Anne Vizan, de la compagnie du Revoir, qui présente en ce moment au Théâtre Saint-Gervais un spectacle qui a pour titre « Tableau d'une exécution ». Un texte qui propose un personnage féminin magistral, le personnage de Galaxia, peintre, femme à qui la République sérénissime de Venise, dans la personne du Doge, a confié la réalisation d'un tableau qui est censé rendre gloire à la victoire que les Vénitiens ont eue sur les Turcs lors de la bataille de Lépante, bataille navale. Et Galaxia a décidé, elle, de dire ce qu'elle pensait de la guerre, c'est-à-dire de montrer que c'était un massacre. Elle a bien évidemment quelques problèmes avec l'autorité. Et c'est ce rapport entre autorité et artiste que vous pouvez découvrir, c'est ce point de vue sur la guerre d'une femme que vous pouvez découvrir dans ce spectacle. Alors tout de suite, la reprise de notre discussion avec Anne Bizan et Francisca Cal, nous en étions à parler de cette façon de travailler entre metteur en scène et comédien. Avec cette façon de procéder dans votre travail, dans la compagnie du Revoir, est-ce que vous avez la sensation que la représentation que nous voyons, nous, ici à Genève, de Tableau d'une exécution, est très différente de celle qui ont pu être faites en Angleterre ou celles qui sont faites en même temps, je crois, à Copenhague et à Varsovie en ce moment même, mois de janvier 1996?
Alors, vraisemblablement, elles sont différentes. J'ai eu l'occasion justement de voir une représentation non pas de cette pièce, mais d'une autre pièce de Barker, par le fameux wrestling school qu'on évoquait tout à l'heure, le jeu à l'anglaise est totalement différent d'une autre. Nous, on a quand même, on est issu d'une dramaturgie beaucoup plus cartésienne, ma foi, c'est vrai. Le sens du jeu est différent. Il y a une importance qui est donnée au sens, surtout. Hein. Et puis le jeu, finalement, il procède du sens. Mais alors qu'on a l'impression que chez les Anglais, c'est une chose qui est, le sens est une chose presque naturelle auquel, et qui s'inscrit dans le jeu. Enfin, ouais. Il y a un autre rapport. Et puis bon, je pense aussi que ça dépend aussi du type de production. Là, c'est vrai qu'on a une production où il y a 9 comédiens pour jouer 23 rôles. Hein. Donc... je peux imaginer que là, là aussi, c'est une contrainte qui était financière. C'est vrai, on n'aurait pas eu la possibilité d'engager 23 comédiens. Mais d'un autre côté, je pense qu'on ne l'aurait pas fait non plus. C'est-à-dire que l'important, c'était, comme il y a des petits rôles, c'est bien que certains comédiens en jouent d'autres. Et c'est important de créer finalement une équipe, une petite troupe éphémère de 9 comédiens qui doivent raconter cette histoire coûte que coûte, en se démultipliant. Donc ça, c'est clair que ça donne aussi un esprit au spectacle, c'est évident. Hein.
Mais est-ce que la lecture d'une pièce peut être très différente suivant que c'est Anne Bison qui a décidé de la mettre en scène, absolument, ou si c'est Howard Barker, auteur, ou si c'est monsieur je ne sais trop qui va le mettre en scène à Varsovie ou à Copenhague?
Je pense que oui.
Bah oui, mm-hmm. oui.
Donc le texte en lui-même est une chose, mais il peut être très beaucoup transformé par la lecture et l'interprétation.
Oui,
c'est vrai que c'est toujours le cas. C'est vrai aussi. C'est vrai pour cela dit que pour le théâtre contemporain, on verra peut-être moins de enfin, quoi que, je pense, alors, franchement, je pense que ça ne doit rien avoir à voir ce qui se passe à Varsovie.
Moi, je me demande.
Et à Copenhague, ça doit vraiment être franchement différent de ce qu'on fait nous, probablement. Enfin. Mais néanmoins, la lecture qu'on peut faire d'un texte contemporain est différente de la relecture, la millième relecture d'une pièce classique, par exemple.
Hein, mais est-ce qu'on arriverait, par exemple, faire de Galaxia une chipie, comme ce que je peux imaginer qu'on arriverait facilement à faire?
Ouais. Non, nous, on a beaucoup. C'est vrai, l'écriture, elle est piégeante aussi. Il y a une trivialité qui pourrait la faire basculer dans une certaine forme de vulgarité. On pourrait la voir un peu hystérique, on pourrait la voir... militante, aride, on pourrait l'avoir. Surtout, on a voulu qu'elle reste très digne d'un bout à l'autre de la pièce. Quoi.
Et donc ça, c'est vraiment propre à votre interprétation. On pourrait complètement dévier.
Enfin, ça, c'est une chose à laquelle dans la compagnie et sur Anne et moi aussi, on s'attache beaucoup à ça, c'est-à-dire aux figures féminines, qu'elles soient belles, quoi, qu'on ait envie de s'identifier aussi à ça.
Surtout sur une figure comme ça, je crois que c'est très important de faire l'autocritique des femmes aussi parfois, mais c'est vrai qu'il y a tellement peu de représentations dignes, positives, finalement, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Il y en a peu. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a peu.
Non, il y en a très peu.
Et en plus de ça, souvent, je trouve que les femmes se font piéger elles-mêmes. Hein. Elles reproduisent parfois aussi des images tout à fait contestables.
Parce qu'il faut être vraiment très, très vigilant par rapport à ça. Mm-hmm. Quoi. On se fait emporter très, très vite si on ne tient pas... Si on n'est pas réveillé tout le temps, on se fait emporter. Quoi,
surtout que nos références, je veux dire, qu'on avale depuis toujours, ce sont des images déformées.
On baigne dans des images déformées sur la femme. Mmh. Donc,
en l'occurrence, qu'est-ce qui alimente alors votre réflexion? On sait que aussi bien Anne que Francisca, vous êtes engagée dans l'association Femmes de Théâtre, qu'on vous voit souvent dans les moments d'engagement des femmes, en tant que, comment vous appelez-vous, les petites femmes...
Femmes silencieuses.
Silencieuses, oui, silencieuses. Qui, avec une certaine forme de théâtre de rue, interviennent, suscitent notre réaction dans la rue à certains moments. Tout ça fait partie d'un travail global et qui alimente cette réflexion dont vous parlez maintenant.
Absolument, tout à fait. C'est indissociable. Ça donne un sens à notre travail théâtral, c'est clair. Hein, et vice-versa, d'ailleurs. je crois que tout artiste se demande à un moment donné quelle utilité il a. Quand on voit la gravité des problèmes dans le monde... Et celui d'éveiller les consciences, d'offrir des images positives et encourageantes, nous paraît essentiel, quoi. Donc, on est très sensible à toutes ces questions, c'est sûr, ouais, en tant que citoyenne et en tant qu'artiste. Ouais, ouais.
Vous nous proposez d'ailleurs, dans le petit texte du dossier de presse qui évoque les femmes, la découverte d'une femme, qu'en tout cas, personnellement, je ne connais pas. Vous parlez de Kate Kollwitz, dont l'œuvre traduirait, je vous cite, « une implication sociopolitique et une dénonciation des conséquences de la guerre ». Alors, merci de nous le faire partager. Qui est Kate Kollwitz?
Kate Kollwitz est une femme peintre donc, qui a fait énormément de dessins dans la période de l'entre-deux-guerres à Berlin, où elle dénonçait beaucoup la misère du peuple. Hein, c'était une femme qui était très proche du peuple, qui a aussi perdu des enfants lors de la Première Guerre mondiale, donc qui avait une implication affective dans la dénonciation des guerres, et qui a été écartée, enfin mise à l'écart par le pouvoir nazi à un moment donné, hein, puisqu'elle... Dans les expositions collectives auxquelles elle a participé avec ses dessins, on lui a censuré certains de ses dessins, justement, qui montraient finalement les conséquences de la guerre. C'est une femme qui a dû fuir l'Allemagne, évidemment, quand les nazis étaient là, et qui a eu un destin tragique. Elle a perdu donc deux enfants, et puis, en plus, elle est décédée, je crois, quelques jours après la fin de la guerre, donc... C'est vrai que c'est une figure un peu emblématique de ce combat des femmes et des artistes contre la violence.
Le dernier « oui » que dit Galaxia au Doge, qui vient de se plaindre amèrement après avoir tenté de discuter avec elle sur ce qu'elle mettait dans son tableau, après l'avoir enfermée dans la prison tout en sachant qu'il en ressortirait très peu de jours après, eh bien il dit « venez manger avec nous parce que je ne supporte pas d'avoir les artistes, de ne pas avoir les artistes à ma table ». Un silence s'installe et Galaxia répond « oui ». Est-ce que vous pensez... Quelle valeur pensez-vous que les gens donnent à ce oui?
Moi, je crois que c'est la subtilité de Barker, c'est d'être resté sur une fin en forme de point d'interrogation et qui effectivement permet aux spectateurs de cogiter sur le thème de la récupération de l'artiste, par exemple, et sur sa vraie liberté, sa vraie subversion. Nous, on a bien sûr un point de vue, mais est-ce qu'il faut le dire ? Je ne sais pas.
Non. Pas si faut c'est pour dire. Ça que je vous disais. C'est très clair. Qu'est-ce que vous imaginez que les spectateurs, les publics mettent derrière ce oui ? Parce qu'effectivement, c'est une des dernières choses que j'aurais aimé qu'on discute, c'est que s'il y a quand même de terrible dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte que malgré la lutte, l'énergie de Galaxia, malgré elle, peut-être, elle pourrait être, comme on dirait aujourd'hui, récupérée.
Elle pourrait être.
Elle pourrait.
Mais à la lecture de la... Vous voyez la balance, hein, c'est-à-dire qu'il y a une immense pièce de 2 heures pratiquement qui raconte la liberté de cette femme et sa force, et ça se termine sur ce petit oui. Hein. Donc au fond, dans la balance, je crois que le public doit voir ça, c'est la force qu'elle a pendant 2 heures, et puis le petit oui qu'elle met du côté du Doge. Hein. Bon, alors après, c'est une question d'équilibre, effectivement. Après, qu'est-ce qui se passe ?
Comme petit cadeau, Franziska, pour nous à la fin, est-ce que tu serais d'accord de nous donner un tout petit morceau de Galaxia qui te touche beaucoup, toi ?
Oh mon Dieu, un petit morceau qui me touche. Attends. Sais-tu ce que je pense ? Je pense que tu as un certain talent pour t'envoyer des compliments. Tu es merveilleux. Mais la pitié n'a rien à faire avec la grandeur ou la petitesse. La pitié, c'est la passion. La passion de l'abandon. Ou l'abandon pour la passion. C'est capituler devant ce qui existe. Plutôt que de m'apitoyer sur les morts et les victimes, je préfère dénoncer. Voici l'homme qui est coupable. Condamnons-le et punissons-le. Il faut déterminer la responsabilité. Sinon, le monde n'est qu'un grand lac de pleurs où les salauds beautés s'ébattent en éclaboussant l'univers. Oui, tu peins bien la pitié. Mais pour cela, tu es prêt à tout subir. Tu finis par trouver de l'exaltation dans les blessures du Christ et de l'érotisme dans la souffrance. Tes crucifixions, elles ont quelque chose de louche. L'Église les adore, les évêques se mouillent d'admiration, mais en fait, ce sont des peintures salaces.
Alors Anne Buzyn et Francisca Cal, merci infiniment pour ce long entretien. C'est toujours un grand plaisir de parler de votre travail et surtout de ce, je le répète, merveilleux cadeau que vous nous avez donné aujourd'hui en ce début d'année, enfin aujourd'hui en ce début de mois de janvier, pour nous donner l'énergie et la force d'exister avec nos convictions malgré le brouillard et la morosité qui règne hélas depuis un certain temps. Alors bonne chance pour la suite de votre travail.
Merci beaucoup.
Alors rappelons-le, le spectacle se joue jusqu'au 27 janvier au Théâtre de Saint-Gervais à Genève. Les représentations ont lieu le mardi à 20h30, le mercredi, attention, 19h, le jeudi, vendredi et samedi 20h30 et le dimanche 17h. Et vous pouvez réserver, et je vous suggère de réserver, au 732 20 60. C'est à Genève 022.
Blue band around its swollen girth. Dizzy and relentless, the suffocated streets wind on and toil, and soils gasp their quickened tiny breaths. Parched dry tongues scrape over reptile lips, and every word we speak steams and crackles in the heat. Lizard still we perch upon the stones, merging carved and curled. This rough dry heat unfurls, pervades the flesh, marrow that once waxed now wanes the bones. High up in the sky, the one unblinking eye pours down its slippery butter yellow drops, melting oily fire on our backs. Fingers without touch feel for relief, and every move we make strains as if about to break. Something has to give.
Alors voilà, aujourd'hui dans Remue Ménage, ce que j'avais à proposer, vous faire partager, cette rencontre avec Anne Wisant et Francis Cacal. J'espère que cela vous aura plu. C'est un peu long, mais je crois que lorsqu'on est pris dans une discussion avec des femmes aussi intéressantes que ces deux femmes-là, eh bien, on a envie que ça continue un petit peu et plus longtemps encore. Enfin, j'espère que ça vous aura paru intéressant et que vous aurez envie d'aller voir ce spectacle, je vous rappelle encore, jusqu'au 27 janvier. Et pour terminer notre émission, eh bien, un peu de musique. La semaine prochaine, eh bien, émission très spéciale avec Viviane de retour du Mexique, du Chiapas en particulier, en compagnie aussi de Suzanne. Et nous évoquerons leur voyage, leur rencontre dans ce coin du Mexique qui bouge très fort.
Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating.
C'était Natacha Atlas qui chante le Maroc Yalla Chante, que vous pouvez découvrir dans ce disque dont je vous parlais déjà la semaine passée, qui a été édité par la DDA, l'aide au développement suisse, qui a pour titre « La musique du monde des femmes ». Et vous pouvez découvrir aussi de très traditionnelles chanteuses comme Celia Cruz, mais qui a donné sa voix à ce projet. Chanteuse cubaine, pour celles qui ne le sauraient pas.
Algo milagro de amor, doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores, ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores.
Luca otra vez.
¿Hasta cuándo?
Alelí,
ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores.